Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, heure de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient de lundi à vendredi, de 11 à 12h, et mercredi, dès 10h, dans le Kinshasa.
Je réfute totalement ce qui
soit l'expérience de combattre au cas d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de l'expérience, trouver une solution par rapport à ça.
Bonne semaine à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi. Au début des années 2000, l'Assemblée mondiale de la santé avait adopté une résolution visant à l'éradication de la poliomyélite dans le monde. En 2014, la maladie ne s'est vue plus de manière endémique que dans certaines régions et états du monde. C'est grâce à l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, IMEP, que des progrès ont été réalisés. 14 ans après la mise en œuvre de cette initiative, quels sont selon vous les progrès obtenus, notamment en République démocratique du Congo, dans la lutte contre la poliomyélite? Rejoignez-nous pour votre participation en direct à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 081 890 63 15. Nous sommes très heureux de vous tenir compagnie. Et pendant ces quelques minutes interactives sur la fréquence de la paix, Jean-Noël Mokondo est à la technique, Feza Julie Bongonda est à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Ben Kabamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Voilà, merci à vous tous qui nous avez envoyé c'est vos messages. Nous avons Innocent Armand Condoli qui dit ceci: un grand pas a été franchi par notre pays dans la lutte contre la polio, mais cette lutte risque d'être compromise par les conflits à l'Est à cause de l'afflux des réfugiés. Wito Wakanja, bravo au gouvernement congolais qui a su éradiquer la polio ici au Maniema. Le taux des victimes diminue d'une année à une autre, mais ce qu'il faut encore faire est d'innover avec les stratégies pour récupérer les familles qui refusent de vacciner leurs enfants, les cas des témoins des Jéhovah. C'est un peu positif, nous dit Junior Balemba de Kisangani, parce qu'à chaque année, il y a toujours un programme de vaccination, c'est encourageant. Dems Gary d'Ouvira, grâce à cette initiative, c'est toujours le programme que le pays africain demeure pendant, c'est approuvativement que les pays africains demeurent encore dépendants des Blancs. Bulunda Samira de Ouvira, la RDC a réussi à éradiquer le virus de la polio. Ici à Goma, je n'ai jamais vu une victime de cette maladie. Vraiment, nous tenons à remercier le gouvernement congolais pour l'appui avec l'OMS, PEV et enfin l'UNICEF. Voilà, mesdames et messieurs, une fois encore merci de votre fidélité à Radio Capi. Nous avons dans ce studio Dr. Audrey Moulumba, qui est le coordonnateur national des activités du PEV, programme élargi de vaccination. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Voilà, vous avez suivi quand même, on va commencer avec le message des auditeurs, qui en fait félicite le gouvernement, donc en passant, et félicite aussi le PEV pour avoir mené en amont déjà des actions dans le sens de pouvoir participer à fond pour la lutte contre la poliomyélite.
Oui, JR, ce qui est positif dans tout ça, c'est que tout le monde reconnaît qu'il y a des efforts qui ont été faits. Et que ces efforts-là, je peux te dire que ces efforts sont encore, il faut les renforcer, si vous permettez la tautologie.
Oui, mais ce serait quand même réaliste de nous faire une idée, on est à quel niveau aujourd'hui? Est-ce qu'on est à l'éradication à 100% ou bien on a quand même atteint un niveau tolérable?
L'éradication, c'est un processus. Pour la RDC, à date, ce qui est très encourageant, c'est que à 6 jours, ça va faire 34 mois, jour pour jour. Dans 2 mois, on va faire 3 ans. Jour pour jour, nous n'avons pas identifier un poliovirus sauvage en RDC jusqu'à présent. Mais quand cela ne tient...
Vous vous éloignez de plus en plus du micro,
quand cela ne tient une JR, nous devons, il y a encore des efforts qu'il faut faire, parce que nous avons encore de coins dans ces pays où
il y a des foyers
où nous n'avons pas toutes les informations, c'est-à-dire nous appelons ça les zones silencieuses, là où on doit travailler avec la surveillance pour confirmer si réellement partout en réunissant tous les pays en passant.
Et j'imagine que c'est des parties qui ont été affectées par des guerres.
Oui, mais vous savez, dans cette lutte contre la poliomyélite, dans cette initiative, il y a eu beaucoup d'acquis. Entre autres acquis, hier, il faut qu'on le reconnaisse, c'est que c'est le leadership du gouvernement. Hein, en se disant, vous savez que à partir de ça, il y a des réunions, il y a une réunion, pratiquement une réunion de coordination présidé par le ministre de la Santé lui-même. C'est quand même quelque chose. Et ces réunions se répercutent même dans les provinces par rapport à cette liste. Ce qui fait que la vaccination est un problème non seulement des autorités, mais un problème de tout le monde. Par rapport à cette initiative, toujours dans cette coordination, tous les chefs coutumiers, vous voyez, les leaders coutumiers, les autorités locales prennent au sérieux les activités de vaccination. Ce qui fait que même les enfants qui ont échappé, au début on avait des nombres très élevés des enfants qui échappaient à la vaccination, maintenant on en a presque pas, on les réduit hein, par rapport aux activités de masse. Maintenant, nous sommes en train de faire de la même chose, parce que là, nous avons des activités de masse, mais il faut que ça soit la même chose pour les activités de routine, ce que nous appelons la vaccination de routine. Oui. Donc, toutes ces coordinations-là se répercutent sur les activités de routine, qui fait que aujourd'hui où je vous parle, vous savez qu'au début, le gouvernement congolais n'achetait pas le vaccin de routine pour les activités habituelles, mais maintenant où je vous parle, c'est le gouvernement qui achète le vaccin traditionnel. Donc, le vaccin contre la tuberculose, le vaccin contre la poliomyélite, hein, le vaccin contre la rougeole, c'est le gouvernement qui achète. Donc, pratiquement comme ça, on couvre les enfants que nous attendons pour l'année. C'est à peu près 3 200 000. Et on achète le vaccin pour ces enfants-là par le gouvernement. Donc, vous voyez, tout ça, c'est à partir... Ce sont les acquis que nous
avons. Donc, l'implication de plus en plus, l'implication de tout le monde.
Voilà les acquis de cette initiative.
On n'aide plus le travail, que le travail soit fait uniquement par les partenaires traditionnels,
normalement,
l'OMS ou dans d'autres.
Et
nous avons vu, en tout cas, ils jouent
leur rôle d'accompagner le gouvernement. Là, nous avons les leaderships. Vraiment, ça, c'est quand même un acquis qui est très solide.
Donc, quand vous parlez de leadership du gouvernement, vous pensez aussi aux moyens financiers disponibilisés par le gouvernement congolais afin de mener à bon port ces actions.
Oui, chaque fois qu'on organise une activité de masse, il y a le gouvernement qui amène son patron, les partenaires mêmement. Mais ce qui est important à savoir ici, c'est que des campagnes, nous les appelons AVS, c'est activité supplémentaire, hein, c'est une activité de vaccination supplémentaire. Pour supplémenter, il faut avoir un soubassement. Le soubassement, c'est les activités de routine. Quand un enfant naît, il doit avoir son vaccin. C'est ça qui est très important, parce que si c'est... les activités de routine sont très bien organisées. On n'a pas besoin d'organiser toutes ces campagnes de masse là-bas. Or, c'est là où le gouvernement s'investit. A commencé d'abord par disponibiliser le vaccin de routine, ce qui est très important. Et maintenant, s'il y a des activités de masse, s'il y a une raison profonde qui fait qu'on organise une activité de masse, le gouvernement aussi amène sa
course. Alors, maintenant que la guerre a cessé quand même dans certaines parties du pays, en tout cas où il y avait des problèmes hier, alors aujourd'hui, quelle est la stratégie que vous préconisez pour arriver à atteindre quand même ces enfants que vous n'avez pas pu atteindre, disons, par les passés?
il faut que,
parce que la couverture soit réellement totale.
Il faut qu'ils se disent que ce qui est encore positif.
Parce qu'il y a un délai. Il y a un délai qui vous a été donné pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Oui. Pour effectivement arriver à éradiquer cette maladie.
Vous savez que globalement, nous avons raté effectivement les objectifs. Parce qu'au début, l'objectif c'était en 2000. En 2000, nous n'avons pas en fait. Et puis finalement, on est revenu en 2005. Il fallait qu'en 2005 on puisse éradiquer.
Ça n'a pas été
possible. On est revenu 2008. Maintenant, nous sommes objectif 2018. Donc, vous voyez un peu comment. Parce que ça, c'est
possible.
L'éradication, c'est pas seulement pour la RDC. C'est l'éradication sur le plan mondial. Donc, c'est pour vous dire que effectivement, parmi les acquis que nous avons, c'est que les AVS, c'est-à-dire les campagnes, ont été organisées même là où il y avait des conflits.
Comment pérenniser ces acquis ? C'est ça la question aussi. C'est vrai que nous avons vu par le passé, par rapport à une expérience du passé, ce n'est pas seulement au niveau de la santé, dans d'autres domaines du pays, nous avons vu le leadership du gouvernement avec pompe, mais après il y a un relâchement. Alors comment maintenant pérenniser ces acquis ? Est-ce que vous avez déjà pensé cela sur le plan stratégique ?
Oui. Je vous dis que ce n'est même pas le pérenniser. C'est que l'initiative a amené. L'initiative nous a amené des stratégies de vacciner, même là où il y a des conflits. C'est-à-dire un plaidoyer très fort. Au moins, de l'expérience, on a vu que les gens se sont mis d'accord sur la vaccination des enfants. Là où peut-être nous n'avons pas réussi, c'est la vaccination des routines. Mais pour les AVS, il nous est arrivé plusieurs fois de vacciner, même là où il y avait des conflits. Donc, c'est un plaidoyer très fort. Les stratégies innovantes par rapport à ça, c'est que vous savez qu'il y a un conflit là-bas, mettez les gens qui vaccinent dans leur biotope, dans leur environnement. Vous n'allez pas importer quelqu'un qui vient d'un coin pour le ramener à un autre. Là, ça n'a pas, souvent, ça ne marche pas. Mais si c'est quelqu'un qui est dans son environnement et qui doit vacciner ses propres enfants, ça ne pose pas de problème. Donc ça, c'est parmi des acquis que nous avons dans cette initiative.
081-893-15 pour votre intervention en direct. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Vous avez peut-être un regard sur le processus de lutte contre la poliomyélite en RDC. Vous avez suivi pas à pas, en tout cas, des événements qui se sont succédés par rapport à cette lutte et par rapport à la maladie. Vous avez des témoignages à nous apporter et aussi quelques contributions par rapport à cette thématique qui nous permet aujourd'hui de faire le bilan de cette lutte après avoir raté 2 ou 3, voire même 4 rendez-vous, notamment 2000, 2005, 2008. Aujourd'hui, tous nous nous dirigeons vers 2018. Alors, que faire si vous pouvez faire des propositions pour que nous arrivions à atteindre les objectifs de 2018 ? Joseph, vous êtes à Lubumbashi, Mathieu Kananga, fidèle à Kisangani. On va vous accorder la parole dans un instant.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous avons Joseph en ligne. Joseph, bonjour.
Bonjour, monsieur J.R.
Alors, vous avez suivi notre invité. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des efforts, il y a des avancées, il y a des acquis. Comment consolider, comment pérenniser ces acquis? Mais d'abord, un regard par rapport à ce que vous avez observé dans votre milieu de vie. Comment évolue la lutte contre la poliomyélite dans cette partie du pays?
À Lubumbashi, comme vous le savez, là, je suis très d'accord avec l'invité. Lubumbashi, c'est déjà une très grande ville. Et lorsqu'il s'agit des campagnes de vaccination, je vois il y a l'engouement et en passant, nous voulons remercier toutes les antennes des programmes d'élargie des vaccinations parce que on voit qu'il y a quand même une très bonne mobilisation et les personnels qui sont commis à cette tâche, on voit vraiment qu'ils font leur travail avec beaucoup d'abnégation parce que ils passent de maison à maison et quand ils entrent dans des foyers où il y a des gens qui ne savent pas l'importance de ces vaccins, et ils font de leur mieux pour les expliquer le pourquoi leurs enfants doivent être vaccinés. On voit vraiment qu'il y a une très bonne mobilisation et comme vous l'aviez dit au début, il y a certaines familles qui ne comprenaient pas l'importance la vaccination pour les enfants, mais avec les temps, par exemple, ici à Lubumbashi et dans certaines communes, Mais les choses ont vraiment évolué. On a vu des mamans qui cachaient leurs enfants. Et la deuxième fois, ils les ont amenés vers les vaccinateurs. Et à Lubumbashi, nous pouvons vous rassurer vraiment que cette campagne a eu un succès. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est de dire que nous avions raté
les rendez-vous précédents, 2000.
En fait, c'est que nous ne comprenons pas. Le Congo, c'est un vaste, il est très vaste, comme l'invité est en train de le dire. Peut-être raté pour la campagne des routines, parce que il y a de ces endroits où on met en monde, il n'y a pas de santé qui est connue par l'État, et l'enfant quitte dans cet endroit. Et sans être vacciné, où il y a tout simplement des milliers où les mamans mettent au monde, elles mettent au monde sans passer par un centre de santé. Mmh. Elles le font dans leur propre famille.
Donc,
dans les maisons, il n'y a pas de vaccination.
Mmh.
Pour là, je suis d'accord, mais pour ce qui est de dire que nous avions vraiment raté de rendez-vous, là, le gouvernement ne doit pas se culpabiliser. Le travail qu'ils ont fait, il est trop gros, et peut-être implanter des centres de santé dans des milieux réguliers, ça c'est une chose, et mobiliser, surtout dans les coins reculés de notre province, mobiliser les gens de ne pas accoucher à partir de leur maison, d'aller à l'hôpital quand la femme veut accoucher, ça peut les aider à récupérer toutes ces vaccinations de routine, et nous remporterons la victoire et nous bouterons la polémique de la République.
Merci beaucoup, Joseph. Vous saluez comme notre invité cet effort du gouvernement qui en fait se traduit dans ses leaderships, hein, l'implication des uns et des autres, et qui en fait qu'aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas eu des cas qui sont déclarés officiellement. Et bien, alors, quant à un rendez-vous manqué, comme nous l'avons dit avec notre invité tout à l'heure, le rendez-vous de 2000, 2005 et 2008, vous inscrivez peut-être en faux en demandant à peut-être qu'on puisse implanter des centres de santé dans tous les coins reculés. Ça permettrait aux femmes enceintes de pouvoir suivre d'ailleurs leur calendrier prophylaxique, disons, en bonne et due forme. Merci beaucoup, Joseph, d'avoir appelé de Lubumbashi. Mathieu, vous êtes à Kananga. Bonjour, Mathieu.
Oui, bonjour, merci, Gérard. Merci de l'invité. C'est pour ça qu'on peut Mathieu à Kananga. En ce que je sache, pour notre petite république démographique du Congo, cette maladie infectieuse appelée poliomyélite a causé aux années 2016 un total estimé de 226 cas de paralysie plastique petit. Or, dans des années passées, la maladie était déclarée éradiquée. Nous avons remarqué la résurgence de la polio sauvage en 2011 dans notre pays avec la découverte du virus type 1, ou à cette année 2014, de vaste campagne de vaccination contre cette dangereuse maladie, soutenue par l'Organisation de la Santé, l'OMS, en Suisse. D'après les analyses de Gérard, je ne vois pas comment cette maladie doit être éradiquée totalement dans notre pays, vu la guerre imposée par des bandes armées et la masse de la population qui quitte leur milieu habituel vers d'autres endroits pour se réfugier. On n'aura jamais l'occasion de vacciner les enfants qui sont en grand nombre. Sans oublier tout ça qui se trouvant dans des endroits sous la direction des troupes de rebelles où l'insécurité va s'en plein. Moi, je crois que la balle est dans le camp du gouvernement qui doit faire tout pour remettre l'ordre et la sécurité pour parvenir à éradiquer totalement cette maladie, sans oublier la sensibilisation et la mobilisation. C'est ça, c'est que j'ai réfléchi.
Merci beaucoup, Mathieu. Vous êtes tout de même pessimiste, hein, quant à l'éradication complète de la poliomyélite. Alors, pour cause, donc, vous dites que la vaccination ne pourrait atteindre les zones silencieuses, les zones aujourd'hui déclarées à conflit. Voilà, et vous demandez à ce que le gouvernement puisse encore multiplier les efforts, surtout pour permettre à ce qu'on puisse renforcer les vaccinations des routines, comme l'a dit votre prédécesseur. Merci, Mathieu, d'avoir appelé les Kananga au Kasaï occidental. Fidèle, vous êtes Kisangani, bonjour Fidèle.
Oui, bonjour Radio Kapi, bonjour l'invité.
Vous avez la parole, Fidèle. Quel est votre point de vue par rapport à la thématique du jour?
Oui, premièrement, je tiens à remercier d'abord notre gouvernement par ses efforts fournis pour l'élimination ou l'éradication de cette maladie. En plus, ici dans la ville de Kisangani, je constate vraiment que cette maladie ne se manifeste pas vraiment. Ça se manifeste très, très rarement. Mais, par contre, je vois dans certains coins ou certains territoires, comme le territoire du Sangui, d'Opala, cette maladie vraiment se vit de temps en temps. Alors, je dirais ceci. Cela est dit au fait que certaines populations de ce territoire ne sont pas vraiment informées et ne comprennent pas bien les conséquences de cette maladie. Et parfois aussi, quand on parle pour les vaccins de l'AVEX dans ce territoire, les gens disent même que non, vous mangez seulement l'argent pour les intérêts de nos enfants. Ceci que les gens, parfois, les gens de la France là disent. Alors, on ne comprend pas vraiment comment. Et puis, cela aussi, troisièmement aussi, je peux aussi dire que non, les vaccinateurs aussi, ceux qui parlent là, oui, sur le terrain pour vacciner les enfants, n'atteignent pas vraiment un bon nombre des enfants. Parfois, je peux me dire que nous n'atteignons peut-être 60-70%. Et c'est pourquoi cette maladie, se vit encore dans certains coins comme le territoire du Palais de Sangui. Alors, comme ma contribution, je dirais ceci, que l'État doit toujours renforcer le secteur santé, financièrement et matériellement, afin de former d'abord les personnes qualifiées et pour chercher comment éradiquer définitivement cette maladie dans certains coins du pays où c'est encore cette maladie.
Merci beaucoup, Fidel. On va prendre Madame Pacifique qui est à Kinshasa. Bonjour, Madame.
Bonjour, monsieur.
Alors, vous venez de suivre Fidel, qui a évoqué d'ailleurs les cas dans certains territoires de la province orientale, notamment les territoires d'Isangui et d'Opala, où il y a un problème d'information, donc la sensibilisation n'atteint pas toute la population, et également les vaccinateurs qui ne font pas le travail comme il faut, ce qui fait que la couverture ne soit pas totale. Alors pour lui, c'est vrai, il y a des avancées déjà réalisées, mais il reste encore quelques défis à relever. Vous avez la parole, Madame Pacifique. Quel est votre point de vue?
Oui, moi je suis positif par rapport à ça. Même si je voulais aussi répondre, j'ai écouté un message au début de votre émission. Vous avez dit qu'il y a un auditeur qui a écrit pour dire qu'il y a justement des gens qui refusent de vacciner leurs enfants. Oui. Et là, moi je suis contre. Parce que c'est constant cette maladie. Moi j'ai trois enfants. Même.
Oui, voilà. Madame, vous sortez un peu précoupé. Vous êtes dans quelle partie de la ville-province de Kinshasa?
Oui, je suis en Sina.
Ben voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être bouger un tout petit peu, changer de position? Peut-être qu'on pourrait avoir une bonne communication, là.
Oui, j'essaie un peu de bouger. C'est
voilà,
pas
allez-y, on va essayer encore.
Oui, j'ai trois enfants. Je ne sais pas si vous m'avez capté.
Allez-y, on vous capte.
Oui, et en même temps, je suis aussi la relais de ce côté-ci pour la vaccination à Massina. Bon, en même temps, je ne viens pas faire le débat de ma croyance, mais je suis aussi témoin de Jéhovah.
Donc, vous êtes relais communautaire.
Oui, je suis relais communautaire.
Voilà.
Les enfants prennent des vaccins dès le premier contact avec c'est pas ici, ils prennent ça. Alors, quand je dis que les témoins ne sont pas interdits, c'est un peu faux. Moi, je ne devais pas être un relais communautaire.
Voilà, merci beaucoup d'avoir apporté cet éclairage, madame. C'est vrai, peut-être c'est une fausse évidence que quelqu'un a par rapport à la foi des témoins de Jéhovah quant à ces systèmes de vaccination pour, au fait, empêcher nos enfants à être victimes de la poliomyélite. Merci beaucoup, madame Pacifique, d'avoir contribué à cette émission. On va prendre Jean des Dieux qui est à Kikwit. Jean des Dieux, bonjour.
Bonjour, monsieur Julien. Bonjour, c'est notre président.
Voilà, vous avez la parole, Jean des Dieux.
Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je confirme que, d'ailleurs, la sensibilisation pour la poliomyélite dans notre ville de Kikwit était assurée avec vraiment connu le succès vraiment abondant de la manière où on avait premièrement sensibilisé dans tous les médias locaux et ceux qui nous infirmiers et le personnel médical qui passaient dans des quartiers sensibilisés et le bon nombre d'enfants vraiment avaient reçu leur vaccin. Mais c'est ça vraiment que je confirme et je témoigne que si cela pouvait continuer encore les années à venir, nous aurons quand même des bons résultats et nous aurons l'espoir que si ça affecte la maladie doit quand même être éradiqué. Voilà, et je dirais aussi que l'invité qui est sur le plateau, s'il y a moyen qu'il y ait quand même des jours de surajout, on ajoute avant 2 ou 3 jours. Parce que la campagne se fait que dans 3 jours. Et beaucoup des enfants et les autres enfants ne reçoivent pas leur vaccin. C'est ça que je dirais, s'il y a moyen. Sur les 3 jours-là, notre gouvernement pourrait faire un effort d'ajouter le 2 jours pour que l'on puisse en récupérer d'autres enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les milieux ruraux ou dans d'autres quartiers où parfois sa mère n'est pas là parce que la
pauvreté
des autres femmes. Si la femme n'est pas là et que les entreprises médicales passent des fois, ils refusent que non, comme la maman n'est pas là, on ne pouvait pas donner l'enfant et quand on donne à l'enfant, il sera la chienne.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean des Dieux. Donc c'est un problème de sensibilisation et de formation à donner à la population et vous demandez vraiment à ce que... Donc vous faites un plaidoyer, hein, pour vous, les jours sont, ne sont pas suffisants, il faudrait quand même qu'on organise quand même des jours de récupération, c'est ce qui est fait par le PEB de temps en temps. Bon, je crois que notre invité pourrait éclairer davantage l'opinion là-dessus et avant de revenir à notre invité, on va aussi accorder la parole à Franquin qui est à Bukavu. Franquin, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi, bonjour à notre invité.
Voilà, vous avez la parole, Franquin.
Je pense que tous mes prédécesseurs ont déjà dit ce que je voudrais dire, c'est par rapport à la sensibilisation, parce qu'on peut noter avec satisfaction, et c'est là que je voudrais aussi encourager le gouvernement, il y a une satisfaction par rapport à la manière dont cette maladie s'est déportée, bien à droite, parce que auparavant, les parents étaient un peu dubitatifs pour aux vaccinations. Et savez, lorsque cette vaccination avait commencé ici, c'était à la période où les pays étaient en conflit et on a passé une certaine mauvaise langue parler que c'était une façon de rendre tous les enfants infirmes pour que le Congo soit récupéré par d'autres personnes. Mais grâce à la sensibilisation qui a été faite par les personnels de la santé, les parents ont fini par comprendre que c'était en faveur de leurs enfants. Et aujourd'hui, même si on peut parler de la sensibilisation, il y a certains parents qui sont encore dubitatifs. Et s'ils ne sont pas dubitatifs, il y a d'autres parents qui ne s'intéressent vraiment pas à cet enfant de vaccination. Mais il faut intensifier vraiment
les sensibilisations.
Mais au-delà de ça, il faut aussi étudier les milieux. Vous allez voir, on accorde 3 jours par rapport à toute la République, mais il y a des endroits où, dans ces 3 jours-là, le personnel de santé qui vaccine ne peut pas accéder. On peut étudier les cas par cas. Par exemple, on peut dire dans les villes, c'est 3 jours parce qu'il y a accessibilité. Mais dans les endroits où il n'y a pas accessibilité, on peut
étendre ça sur une semaine, par exemple. Merci beaucoup, Franquin,
d'avoir fait. Pour atteindre tout le monde. Voilà, c'est ce que moi je voudrais aussi contribuer à l'émission.
081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Docteur Audry, vous avez suivi cette longue première série des auditeurs. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de préoccupations et aussi des gens qui, en fait, ont donné quand même bien témoignage hein, par rapport à ce qu'ils observent au quotidien. Alors, comment vous réagissez?
Je suis l'homme le plus heureux parce que si vous regardez globalement, tout le monde est d'accord que les choses
vraiment des avancées
vraiment. Maintenant, il y a quand même des choses qu'il faut que nous puissions améliorer et même donner l'information. C'est par rapport à Joseph de Lubumbashi. Je confirme encore à Joseph que nous avons raté le rendez-vous. Vous savez, hier, entre 2001 et 2005, nous n'avions aucun, c'était comme maintenant, il n'y avait aucun poliovirus sauvage qui circulait. En 2006, nous avons été réinfestés. Et là, nous avons eu 13 cas. Depuis les 13 cas, jusqu'en 2010, hier, nous avons eu 100 cas en 2010. Ça, c'est quand même une... Et en 2011, nous avons 3 cas. Vous voyez un peu. Donc, nous ne sommes pas au rendez-vous. Maintenant, avec les efforts, avec la mobilisation des uns et des autres, nous sommes dans une situation où nous allons faire, dans un mois, dès que nous atteignons le mois de décembre, le 20 décembre, parce que le dernier cas, c'était le 20 décembre 2011, si nous atteignons le 20 décembre 2014, on va faire 3 ans, jour pour jour, sans un seul cas de polyvirus en circulation. Ça, c'est une situation qui nous réconforte, mais qui peut être fragile.
Donc, il y a un problème de surveillance.
Oui, non, on va y arriver. Il y a un problème de renforcer notre immunité collective. C'est-à-dire que, comme tout le monde est d'accord par rapport à la vaccination, il faut que nous puissions renforcer la vaccination de routine. Mais maintenant, là où il y a des cas comme maintenant, je crois qu'à partir de jeudi, on va
organiser.
À partir de jeudi,
de ces jours. Jeudi 27h, 28, 29, donc le jeudi 30.
Voilà, le jeudi 30, on va organiser les journées locales de vaccination qui vont faire 3 jours. On va y arriver. Mais maintenant, par rapport à notre ami Mathieu, d'ailleurs, JR devient spécialiste, tu as répondu.
Voilà, quand vous recevons, moi, je suis quand même quelque chose.
Ça doit être comme ça. Le journaliste doit relayer. Ça doit être comme ça, et je suis très, très, très fier de toi. Il faut qu'on continue la sensibilisation. Vous voyez, effectivement, lui aussi n'avait pas de bonnes informations, parce que nous n'avons jamais éradiqué. Peut-être, il peut se dire à la situation de 2001 à 2005, comme nous étions dans une situation très confortable, peut-être qu'il a pensé qu'on avait éradiqué. Non, nous sommes dans ce processus là-bas. Pour Fidel de Kisangani, il dit qu'à Opala et à Itangi,
je crois que c'est très fragile.
C'est un problème de communication. Et là, il faut vraiment que... mais je ne pense pas que ce ne sont pas de territoires ou de zones de santé qui sont silencieuses. Non, nous avons la situation là-bas et qu'il faut seulement qu'on puisse, renforcer la vaccination de routine. Et la province orientale est concernée par la campagne qui commence les jeudis. Toute la province orientale. Parce que cette campagne qui commence les jeudis
ne concerne pas tout le pays.
Ne concerne pas tout le pays. Concerne des endroits à risque. Des endroits où nous sentons que le mal ou
à tout le monde.
Donc c'est toute la province orientale, toute la province du Nord Kivu, toute la province, la ville province de Kinshasa, toute la province de Bas-Congo. Maintenant, l'Équateur, c'est dans sa partie nord. Le Katanga aussi dans la partie nord vers Kalemi, la partie nord. Voilà comment on va organiser cette campagne que nous pensons locale, parce qu'il ne concerne pas tous les pays. Par rapport à Pacifique, à Kinshasa.
Elle
a dit oui, et moi je ne veux pas citer les croyants. Non, ça je ne peux pas citer, mais dans toute organisation, c'est tout à fait normal qu'il y ait des résistants, mais nous devons avoir la capacité
de convaincre.
Voilà. C'est ça notre travail. La capacité de convaincre, de montrer le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire. Jean de Dieu.
Et là aussi, il faut une sensibilisation permanente.
Oui,
parce que ce que nous avons toujours, toujours reproché à ce leadership gouvernemental ou encore autre qui s'engage dans la lutte, c'est-à-dire lancer avec pompe des campagnes, avec des publicités, des panneaux, mais après, il n'y a rien, bon, et puis on oublie, c'est comme si on l'attend. Quand il y a résurgence, c'est là qu'à ce moment-là que tout le monde se réveille.
Il y a deux choses ici. Une campagne, c'est une organisation qui arrive, qui n'est pas permanente.
Oui, vaccination des masses.
Voilà. On vaccine le masse, mais pour que vous puissiez mobiliser tout le monde au même moment, il faut suffisamment une grande mobilisation. Mais maintenant, nous avons des activités de routine. Si vous demandez à toutes les mamans qui amènent leurs enfants à la vaccination, ils savent toujours qu'il y a une petite séance de communication, de sensibilisation. On leur dit tel antigène, c'est pour ceci, maman, le rendez-vous, c'est à telle date, tout ça. Les mamans savent. Et ça s'est fait au niveau des centres de santé. Maintenant, pour Jean de Dieu et Frantin, c'est presque la même chose. Là où ils demandent 2 jours supplémentaires. Effectivement, ils ont raison. Ils ont raison quand nous ne respectons pas l'organisation. Vous savez, JR, quand nous organisons les campagnes de masse contre la poliomyélite, nous utilisons ce qu'on appelle la stratégie porte-à-porte. Cette stratégie porte-à-porte a des exigences. Vous ne pouvez pas importer quelqu'un d'un village à un autre. Vous ne pouvez pas importer quelqu'un d'un coin à un autre. Si vous importez quelqu'un, par exemple, vous prenez quelqu'un de Massina pour l'amener vers Kitambo là-bas pour aller vacciner, c'est tout à fait normal qu'ils vous disent que les 3 jours, vous m'avez donné, je ne peux pas couvrir mon aire de vaccination. Ça, c'est tout à fait normal. Si vous amenez quelqu'un d'un village qui se trouve à des kilomètres pour aller vacciner dans un autre village, c'est tout à fait normal. Mais si vous avez pris quelqu'un dans son milieu, dans son village, il connaît bien, dans son village d'abord, il connaît bien le village. Je crois que le 3 jours, et avec un jour de récupération, je crois que ça suffit. Le grand problème, effectivement, c'est de prendre le personnel, les prestataires dans leur milieu.
Milieu naturel.
Ah oui, oui.
Donc, il faut des questions dans leur milieu naturel. Merci beaucoup, docteur. On va revenir à vous. Il est temps de repasser de l'autre côté du standard pour retrouver Richard Kietabounia, Justine Akolesi et Demaga Dougou. Richard, bonjour. Richard, vous êtes avec nous? Abounia, bonjour. Voilà, le temps que la ligne de Richard puisse se rétablir, nous on va prendre Justine Kietakolesi. Justine, bonjour.
Bonjour, bonjour. Bonjour à Radio Papier et bonjour à l'invité.
Voilà, Justine, vous avez la parole. Quel est votre point de vue?
Oui, au fait, j'ai une préoccupation. Je voulais savoir s'il faut vacciner un enfant combien de fois. Parce que j'ai fait un calcul l'année passée. Ma fille a eu 5 ans l'année passée, plus de 6 ans l'année passée. J'ai essayé de faire un calcul simple. Les vaccins qu'on prend, comme vient de dire l'invité, à la naissance, au fait, il a eu la polio 3 fois, c'est-à-dire le vaccin contre la polio déjà 3 fois au centre de santé. Et puis, on a eu une moyenne de 3 à 4 campagnes de vaccination au cours de l'année. Mm-hmm. Si vous prenez de 0 à 5 ans, vous avez 4 campagnes de vaccination là, fois 5 ans, ça vous fait 20. Plus les 3, elle avait pris au total 23 doses de vaccin contre la poliomyélite. Alors, je voulais savoir, il faut aller jusqu'à combien pour éradiquer? Parce que pour moi, je trouve que c'est exagéré. Ça devient trop excessif. Parce que je ne vois pas quelle est la maladie où on doit vacciner un enfant 23 fois. Vous comprenez?
Mm-hmm.
Donc, moi, j'estime qu'ils font du bon travail, mais il faut qu'on fasse aussi des calculs pour savoir, on va donner combien de fois de vaccins? Ils disent, il faut que l'enfant soit vacciné combien de fois? Parce que maintenant, on commence à se méfier par rapport au nombre de campagnes qu'ils font et par rapport aux doses, au nombre de doses qu'on donne à un enfant normal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, madame, merci de nous avoir fait cette observation. On va quand même transmettre ça à notre invité tout à l'heure. Et vous avez fait des calculs simples hein, par rapport à votre enfant, d'ailleurs, des parties de votre enfant, et en faisant un calcul dans l'ensemble, vous avez trouvé que c'est 23 fois, c'est quand même énorme, c'est trop pour comme dose pour un enfant. Alors, on n'est pas spécialiste en ça, mais je crois que notre invité pourrait éclairer la lanterne des uns et des autres d'un moment à l'autre. Merci beaucoup. Alors, on va prendre Demaga qui est à Dungu. Demaga, bonjour.
Oui, bonjour, JR. Merci de m'avoir accordé la parole pour pouvoir participer à cette émission.
Vous avez la parole, Demaga. Votre point de vue, rapidement.
Oui, mon point de vue, oui. Tout à l'heure, là, vous avez parlé de, soit disant qu'il y a des avancées pour l'éradication de cette maladie. Moi, je pense que d'abord, j'étais d'abord à encourager le gouvernement pour cette initiative qu'il a pour l'éradication de la poliomyélite en RDC. Mais le problème en est que bon nombre des enfants ne sont pas vaccinés, surtout au fin fond du pays. Si nous prenons par exemple les milieux où les rebelles sont actifs, les sensibilisateurs, les vaccinateurs, les gens qui sont chargés pour les vaccins n'arrivent pas à atteindre ces milieux-là. Alors je ne sais pas si quelles mesures le gouvernement est en train de prendre pour des jeunes pareils. Et puis, le gouvernement doit aussi prendre en charge les vaccinateurs afin de leur permettre de parcourir tous les milieux qui sont impraticables.
Mm-hmm.
Surtout si nous prenons par exemple le cas...
Oui, voilà, donc Demaga, vous évoquez... Oui, Demaga.
Si à Dungu, nous prenons Ango, nous prenons Bayoule, Dakwa. Alors je ne sais pas si...
Oui, vous évoquez là le même problème que vos prédécesseurs venaient d'évoquer tout à l'heure.
Atteindre ce milieu-là.
Voilà, merci beaucoup Demaga, c'est vrai, nous allons transmettre ça à notre invité, le problème d'accessibilité, il y a même un qui avait proposé de multiplier les centres de santé, en tout cas en ce qui concerne la vaccination de routine, pour permettre à ce que les gens puissent atteindre, en tout cas, les milieux pour obtenir ces vaccins sans problème. Alors Dieu merci, vous êtes à Manono, bonjour Dieu merci.
Bonjour, bonjour Radio Capi.
Vous avez la parole, Dieu merci. Quel est votre point de vue?
Oui, mon point de vue, c'est vraiment mélanger derrière Rotary Club qui a demandé au gouvernement de retourner la paix dans on ne peut pas appeler triangle de la mort dans les carrés maintenant de la mort parce qu'on concerne aussi les territoires de Malimangoulou. Dans les territoires de Manono où nous sommes, il y a certains coins qui ne sont pas où les enfants ne reçoivent pas la vaccination. Mais c'est grâce aux radios locales, parfois qui sensibilisent pour que et là où se trouve le Maïmaï, parfois on accepte et la présence des vaccinateurs. Un autre problème, on a constaté qu'à Manono, la vaccination était plus contestée par beaucoup de parents, surtout les gens des églises de réveil, et vraiment contestée, résistée à la vaccination. Mais nous avons constaté que cette résistance, les gens posaient des problèmes, posaient des questions. Quelles sont les questions? Je ne sais pas c'est comment le vidé du jour peut intervenir. Bon, à Manono, il y a les enfants qui meurent. Hein, du paludisme. Beaucoup d'enfants meurent du paludisme. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate, monsieur le journaliste, les enfants ne sont pas soignés du paludisme, mais il y a la vaccination à répétition. C'est pourquoi les gens contestaient plus. Mais pour le moment, on a constaté qu'il y a un changement. Si on doit multiplier, même ailleurs, là où il y a encore des résistances, on peut faire impliquer les autorités, comme les autorités politico-administratives. Il y a aussi l'implication de l'UNICEF qui a plus multiplié les sensibilisations avec les radios locales. Il y a l'amélioration. Même ailleurs, là où il y a encore des résistances, on peut multiplier, renforcer les sensibilisations, sinon on peut trouver les changements. Mais pour la nouvelle dose qui sera donnée aux enfants, on demande aussi au gouvernement d'établir vraiment l'autorité partout, l'autorité des
États,
afin de permettre à
ces
enfants aussi de bénéficier de ces vaccinations parfois, et qu'ils ne bénéficient pas à chaque fois.
Merci beaucoup, Dieudonné. Dieu merci d'avoir appelé de Manono. Là, nous sommes au Katanga. Nous allons prendre Willy avant de revenir à notre invité. Willy, vous êtes à Kamina. Bonjour, Willy.
Oui, bonjour, j'ai l'invité.
Voilà. Je crois que vos prédécesseurs ont dit beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez peut-être nous amener vers des propositions à faire pour que finalement on puisse maintenir quand même cette lutte à ce niveau où nous n'avons pas encore eu de cas déclarés ces deux dernières années?
Ok, merci. Bien, hier, au lieu de revenir, un prédécesseur ont dit, et d'ailleurs, je cite M. de Manono, ce qui vient de dire, c'est ce que je voudrais aussi évoquer. Mais avant d'arriver aux propositions, j'ai deux petites questions et à demander à notre invité qui peut nous donner le taux et les résultats jusque-là.
Donc vous parlez des taux de couverture aujourd'hui à ces jours.
Ah bon?
Le taux de couverture de vaccination, c'est ça?
Ah oui, le taux de couverture, c'est ça.
Oui. Voilà.
Le deuxième préoccupation, c'est l'inconvénient du vaccin pour un parent qui, par mégarde, un enfant peut devenir un enfant de plus de 5 ans, c'est-à-dire enfin, 5 ans, 1 mois, 2 mois, 10 mois. Et si on admet que le vaccin est anti-cola, et par mégarde, le parent n'était pas là. Ce sont les deux questions, mais.
Voilà, on a du mal à comprendre le deuxième volet de votre question. Vous avez dit les parents, voilà, donc le notre invité a compris. Merci beaucoup, Willy. 081-890-7315.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, heure de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient de lundi à vendredi de 11 à 12h et mercredi de 10h, heure de Kinshasa.
Et je vous remercie de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Trésor, vous êtes à Lubumbashi, gardez la ligne. On va vous accorder la parole d'un moment à l'autre. Docteur Yaudry, c'est vrai, il y a encore d'autres préoccupations qui viennent s'ajouter. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces auditeurs?
D'abord, je vais tranquilliser Madame Justine. Madame Justine, la différence entre le vaccin oral contre la poliomyélite avec les autres vaccins, c'est que c'est un vaccin d'abord qui est inoffensif et il n'y a pas d'overdose. Donc soyez vraiment rassurés, madame, à partir du moment où l'enfant se trouve dans notre cible, il doit être vacciné sans tenir compte de son calendrier vaccinal. Donc il n'y a pas d'exagération, madame. Nous sommes dans un focus où on doit éradiquer
le poliovirus sauvage. Par rapport à notre ami de Kisanga, je crois que Demanga de Dungu, il a parlé des zones qui ne sont pas accessibles. Ici, la difficulté souvent quand je parle de la vaccination, c'est que c'est faire cette démarcation entre la vaccination de routine et la vaccination de masse. Mais souvent, quand nous discutons, nous focalisons beaucoup plus sur la vaccination des masses. Mais il faut vraiment que nous focalisons sur la vaccination de routine.
Parce que c'est là où il y a le problème.
C'est là qui, effectivement,
l'accessibilité,
c'est là où nous avons des problèmes. C'est là où il y a même des gros efforts. C'est là où nous avons des acquis. Parce que si vous regardez des grands acquis, vous verrez que nous avions des petits problèmes et nous les avons jusqu'à présent, peut-être de garder le vaccin.
La chaîne de froid,
ça, voilà.
C'est un problème sérieux.
Vous verrez que maintenant, là, nous sommes dans un grand processus et il faut que les gens sachent que tous les congélateurs, les réfrigérateurs qu'on utilisait dans les temps avec du pétrole sont en train d'être changés. On est en train d'amener les réfrigérateurs solaires. Ça, c'est vraiment une grande, un acquis, une grande innovation.
Un budget.
Parce que ça ne va plus demander qu'on ait du pétrole en permanence et vous savez combien le pétrole coûte dans nos villages. On est en train de faire ces gros efforts. Et on aura
et déplacer ces matériels, par exemple, de Kinshasa, de grandes villes, pour aller dans les coins.
On est en train de faire des gros efforts. On est suffisamment très avancé, JR. Donc, pour les zones qui ne sont pas accessibles, d'après lui, par rapport aux activités de masse, aux campagnes. Nous utilisons des personnels qui sont là-dedans. Parce que dans ces zones, ce n'est pas accessible peut-être par rapport à nous. Mais il y a quand même
des gens communautaires.
Déjà, on est en contact et même organise la campagne et même vaccine leurs propres enfants. Le problème, c'est la vaccination des routines. Où nous avons par exemple un centre de santé et autour de ce centre de santé, il y a des villages. Il y a des villages qui sont loin. Et nous appliquons ce que nous appelons des stratégies avancées, des stratégies mobiles, là où vous verrez l'infirmier titulaire qui quitte son centre de santé à vélo, soit en moto, pour aller vacciner les enfants d'un village ou d'un autre village. Et là, effectivement, il y a des fois là où il ne peut pas aller, peut-être parce qu'il y a telle ou telle, il y a une raison. C'est là où nous sommes en train de travailler. Et tous ces enfants, souvent, nous les récupérons. Nous récupérons les enfants lors des campagnes. Lors des campagnes, nous mettons les vaccins de routine aussi. Parce que non seulement on donne le vaccin contre la poliomyélite, mais on va aussi avec des antigènes que l'enfant n'a pas eu, que l'enfant a raté dans son calendrier vaccinal. On essaie de les récupérer. Vous verrez toujours, quand nous présentons les activités, on présente la couverture des ABS, mais on dit pendant ces AVS, voilà les enfants qui ont été récupérés pour la vaccination des routines. Ce sont des efforts que nous faisons régulièrement. Désolé de Manounou, lui il a parlé aussi des Rotary Club. Moi je n'ai pas un commentaire là-dessus par rapport à Rotary Club.
Oui, tout ça, mais il y a, ça résulte d'ailleurs le niveau de vie d'un auditeur qui parlait de la multiplication. Il faut multiplier, il faut placer des centres de santé partout en ville. Gros, ça pourrait permettre que cette activité de routine.
Mais il y a dit quand même quelque chose qui est important. Il dit voilà, les gens ont un problème, par exemple, de paludisme. Vous voulez ramener la vaccination. Effectivement. Pour les paludes, on a fait aussi des gros efforts hier. On a distribué dans ces pays presque partout des moustiquaires. Et c'est pourquoi il a dit, maintenant, nous pensons que ça marche. Ça marche parce qu'effectivement, il y a eu des actions. Vous voyez, on ne peut pas faire au même moment toutes les actions. On y va progressivement. Mais c'est bien au moins ce qui est important, c'est que la population
au regard des indicateurs, vous êtes le patron du PEV, vous êtes le coordinateur national des activités du PEV, pour atteindre 2018, au regard de tous ces indicateurs, est-ce que
nous sommes dans le bon JR, très bon d'ailleurs, c'est-à-dire que, et je vais peut-être
citer par là,
pour l'instant, avec la situation que nous avons, vous allez voir que nous nous focalisons beaucoup plus sur deux choses. Sur la vaccination de routine dans toutes les zones de santé pour que le nombre de séances de vaccination de routine augmente, qu'on ne vaccine pas les enfants une fois le mois, mais qu'on vaccine par mois dans chaque aire de santé, quatre fois, c'est-à-dire une fois par semaine, au moins une fois par semaine, et à côté de ça, qu'on puisse intensifier la surveillance, que ce soit une surveillance communautaire. pour nous dire effectivement ce que nous sommes en train de faire, nous sommes dans les bons. Nous sommes allés très loin, hier. Dans les EDES, les enquêtes démographiques et sanitaires qui sont passées, on est allé juste même à regarder quel est le taux d'anticorps, hein, quelle est notre couverture communautaire. Et jusque-là, on attend la couverture, effectivement, la vraie couverture en termes d'immunité. De nos enfants, ça, on n'a pas. Mais pour la rougeole, on a eu. Nous avons un gap immunitaire qui tourne autour de 28%. C'est déjà quelque chose. Et ce sont des efforts, mais il y a des points qui nécessitent qu'on puisse se renforcer. Mais, sincèrement, je peux te dire que les efforts des uns
donc, on regarde et des les indicateurs, autres, nous sommes dans le bon, on pourrait quand même
atteindre dans le bon. D'ailleurs, on vient de terminer tout un atelier pour regarder, parce que maintenant, nous sommes dans est-ce que la qualité des données que nous avons, qu'on regarde, qu'on ait le vrai d'information de nos structures.
Voilà, si vous permettez, on va conclure avec vous dans un instant, le temps d'accorder une minute à chacun, donc Trésor, Justin et Augustin. Trésor, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Trésor, vous êtes à Lubumbashi, bonjour Trésor.
Je dis bonjour, Pierre.
Oui, rapidement, vous n'avez qu'une minute, hein, Trésor. Comme ça, ça va nous
faire en fait, Pierre, moi, je me résiste à dire que cette vaccination doit nécessairement atteindre le territoire national, qui veut dire tout enfant se trouvant dans le territoire national doit bénéficier de la suite vaccination. Non, ici, il est question au gouvernement d'avoir les contrôles du territoire national, parce qu'il n'y a que les gouvernements qui peuvent faire en telle sorte que la vaccination puisse atteindre l'objectif au niveau national. En fait, cela, si vous me permettez, je peux vous expliciter. Sans que les gouvernements puissent se donner corps et âme pour que la vaccination arrive à tous les coins ou à tous les coins du pays, cela ne peut pas arriver. Donc, il faudrait que le gouvernement puisse favoriser à l'ONG qui est chargée de la vaccination d'arriver
Je crois que le
peuple, c'est quand même
un programme du gouvernement.
Voilà. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Hein.
Ok. Le peuple, c'est l'organe du gouvernement.
Merci beaucoup, Trésor. On va prendre Justin qui est à Béni. À lui, on va accorder également à une minute. Justin, bonjour.
Bonjour, Radio-Cat.
Oui, rapidement, à une minute, Justin.
Oui. Je suis aussi acheteur de santé, mais je vais juste donner une façon de faire au programme de PEV, d'autant plus que dans l'organisation qui existe la diffusion de ces types de vaccination, il y a une niveau planification qui a été prévue par les aides de santé, mais ce que nous voyons souvent sur le terrain, c'est que les zones de santé ne respectent pas les niveaux de planification, de manière à ce que si ces 10 équipes qui ont été prévues pour atteindre chaque enfant, vous trouvez que la zone de santé remet à motiver 5 ou 6 équipes, alors on trouve des difficultés à atteindre chaque enfant. Alors je veux juste conseiller aux PEV de renforcer ce système de suivi évaluation pour que les nombres d'équipes telles que prévues dans les micro-planifications soient exactement les équipes qui exercent.
Merci beaucoup, Justin, d'avoir contribué. On va terminer avec vous, Augustin, en 40 secondes. Augustin, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Oui, rapidement, en 40 secondes, parce qu'on a plus assez de temps.
Bon, j'allais seulement demander à mon invité, seulement comme vous m'avez accordé une minute, quelles sont les stratégies que l'État a appliquées pour les parents qui refusent à ce que ces enfants ne soient pas vaccinés. Voilà un peu le problème.
Merci beaucoup.
Est-ce que tout le monde n'a pas...
Merci beaucoup, Guita. C'est Dr. Rodrigue. C'était une question directe, on commence par là, et puis on va ramasser les deux.
Les stratégies, votre mot de conclusion. Les parents... D'abord, je pense que ces parents-là, vous les appelez parents, sont des responsables. Je crois qu'il faut pas une décision coercitive, mais il faut qu'ils arrivent à comprendre d'abord l'utilité de quelque chose. Parce que on va faire d'un grand programme un programme efficace si tout le monde comprend pourquoi il vaccine son enfant. Mais si ce sont des décisions qu'on ne comprend pas, ça ne sera vraiment pas efficace. Pour notre ami de Béni, il a tout à fait raison. La micro-planification du TF, d'ailleurs, c'est une innovation. Nous faisons des micro-planifications par village.
Ce qui fait que si le médecin chef de zone tripote là-dedans, vous avez les dispositifs que nous mettons, nous envoyons toujours des superviseurs. Il y a des superviseurs du niveau central et des superviseurs du niveau provincial. Donc, tous ces superviseurs ensemble, je pense, ils peuvent faire un suivi très très bien. Mon trésor, c'est juste pour vous rappeler que le PEV, c'est le programme élargi de vaccination, c'est un programme technique du ministère du ministère de la Santé, qui est un programme du gouvernement. Donc, tout ce que nous faisons, nous ne sommes qu'un organe technique du gouvernement, c'est au nom du gouvernement. Raison pour laquelle, chaque vendredi, c'est le ministre qui convoque tout le monde pour chercher à voir où en sommes-nous, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, et le gouvernement contribue aussi par rapport à l'achat des vaccins et tout ce que j'ai dit.
Docteur Rodri Amulumba, merci beaucoup. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur national, directeur national d'ailleurs, des activités de PEV, le programme élargi des vaccinations. Merci d'avoir accepté notre invitation. On y reviendra peut-être après le 30 octobre pour faire l'évaluation de cette campagne qui sera organisée dans certaines parties du pays, toujours dans les cadres de lutte contre la poliomyélite. Il faut encore merci.
Merci
également à vous tous qui avez suivi avec attention cette émission Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Nous disons merci aussi à Jean-Noël Mokondo qui en a assuré la mise en onde et la réalisation a été assurée par Julie Feza Bongonda, une émission coordonnée présentée par J.R. Louis-Bos sous la supervision de Ben Kabamba. On se retrouve demain pour un autre numéro.